Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes toujours vivants, que vous respirez toujours, c'est important. Alors si votre mémoire est bonne, il y a quelques semaines, on a commencé une série dans l'évangile de Marc. C'est une série qu'on suit un peu de manière épisodique, on ne le fait pas forcément chaque dimanche. Mais si votre mémoire est bonne, c'est Ricardo qui a commencé cette série il y a à peu près 4 semaines en nous rappelant, sur la base de Marc, du premier chapitre de Marc, que Jésus était digne de notre confiance. Raphaël a poursuivi il y a à peu près 2 semaines en nous rappelant, toujours sur la base de Marc 1, que Jésus a de l'autorité, et il a de l'autorité par son enseignement et de l'autorité par le pouvoir qu'il a montré sur la nature et sur les hommes, notamment par ses guérisons. Et donc je vous propose ce matin de continuer dans cette série et on va prendre la suite du texte. On arrive à Marc chapitre 2 et on va prendre une histoire qui a son importance. C'est une histoire qui est importante d'une part parce qu'on la retrouve dans 3 des 4 évangiles et c'est une histoire aussi qu'on connaît très bien. C'est une histoire que ceux d'entre nous qui sommes passés par l'école du dimanche qu'on connaît bien, c'est une histoire qu'on raconte souvent à nos enfants. Et cette histoire, c'est celle de la guérison du paralytique, la guérison de l'homme paralysé. Et donc à nouveau dans ce texte, on va voir que Jésus a le pouvoir et l'autorité de guérir. Mais dans ce texte, Marc va nous dévoiler quelque chose de nouveau à propos de Jésus qu'on n'avait pas vu jusque-là dans son évangile. Donc je vous propose de prendre ce texte, on va le lire ensemble. Marc chapitre 2, et on va lire ensemble les versets 1 à 12. Donc Marc chapitre 2, verset 1. « Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison, et un si grand nombre de personnes se rassemblèrent qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Il leur annonçait la parole. On vint lui amener un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où il se tenait, et descendirent par cette ouverture le brancard sur lequel le paralysé était couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Il y avait là quelques spécialistes de la loi qui étaient assis et qui se disaient en eux-mêmes, « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème, qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus sut aussitôt dans son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes, et il leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs ? » Qu'est-ce qui est plus facile à dire au paralysé ? Tes péchés sont pardonnés ou lève-toi, prends ton brancard et marche. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi. Aussitôt il se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous très étonnés et célébraient la gloire de Dieu en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil ». Donc après nous être intéressés à la confiance qu'on peut accorder à Jésus, après nous être intéressés au pouvoir et à la puissance de Jésus, ce matin, Marc veut nous révéler la mission de Jésus. Et cette mission, c'est la mission, on va le voir, d'un serviteur qui est venu non pas pour guérir nos maladies, mais qui est venu avant tout pour le pardon et la purification de notre péché. D'abord, le texte commence par nous situer un peu la scène. On plante le décor de ce qui se passe ici. Jésus se retrouve encore à Capernaum, dans le nord de la Galilée, et c'est là qu'il avait commencé son ministère d'enseignement et de guérison. Il a donc déjà acquis dans cette région-là une certaine renommée. Il est connu et il est reconnu. Dès qu'il se déplace quelque part, il rassemble les gens, il rassemble les foules. Et donc à nouveau ici, il se retrouve entouré par une foule nombreuse. Et le texte nous dit qu'il leur enseigne la parole. Quelle est cette parole qui leur enseigne ? Marc nous l'avait déjà dit dans son premier chapitre, au verset 15, « Jésus allait dans la Galilée, il prêchait l'évangile de Dieu, il disait, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Et ça, c'était cette bonne nouvelle que Jésus leur enseignait ce jour-là. Mais alors que Jésus les enseigne ce jour-là, un événement inattendu va se produire. Un homme paralysé et ses 4 amis entrent en scène. Et cet homme-là, il avait probablement déjà entendu parler de Jésus. Il avait probablement même relevé que Jésus était un guérisseur, quelqu'un qui pouvait guérir. Et on voit que cet homme, il avait un besoin énorme. Il avait dans sa vie une priorité, il avait dans sa vie une urgence. Il était paralysé et il voulait marcher. Et à cause de cette paralysie, on peut penser qu'il était probablement sans travail, qu'il était dans l'incapacité de soutenir sa famille matériellement et financièrement, qu'il devait vivre constamment aux dépens des autres, qu'il était évidemment incapable de se déplacer seul. toute sa vie était conditionnée par cette maladie, par cette paralysie. Et c'est cette situation de désespoir, cette situation qui a déclenché son besoin de se rendre auprès de Jésus. C'était sa motivation. Et je suppose que d'une certaine façon, si nous on est ici ce matin aussi, c'est qu'on cherche quelque chose, qu'on a besoin de quelque chose de la part de Dieu. Peut-être que vous avez aussi désespérément besoin de quelque chose de la part de Dieu. Et c'est peut-être le cas de la plupart d'entre nous. Qui d'entre nous n'a jamais prié Dieu une de ses prières ? Seigneur, guéris-moi. Seigneur, aide-moi à trouver un travail. Seigneur, aide-moi à réussir cet examen. Seigneur, j'ai besoin de ton aide dans ma vie de famille, dans ma vie de couple. Seigneur, aide-moi à affronter cette épreuve dans ma vie. On vient à Dieu avec nos bagages. On lui apporte nos soucis, nos besoins. Et on a des listes de prières plus ou moins longues, avec des choses qui nous sont très importantes dessus. Je ne sais pas si vous faites ça, moi je le fais en tout cas. Et cet homme paralysé, ce matin-là, c'est ce qu'il a fait. Et il venait voir Jésus parce qu'il avait désespérément besoin de quelque chose. Sa prière à lui, c'était « Seigneur, aide-moi, j'ai besoin de marcher. » Et ça, c'est la première... Pardon. C'est bon. Et donc ça, c'est la première leçon qu'on peut tirer de ce texte. C'est que nous sommes tous, les uns et les autres, dans une incapacité à résoudre certains de nos problèmes les plus urgents. Chacun à notre niveau, chacun dans des domaines différents, chacun à des moments différents de notre vie, on est face à nos limites et face à nos incapacités. Et donc on les amène à Dieu, on les présente à Dieu et on lui présente dans l'espoir qu'il puisse faire quelque chose. Mais cette histoire nous apprend quelque chose d'autre, quelque chose de bien plus important que ça. Quelque chose à propos de nous-mêmes encore une fois. Non seulement on est incapable de résoudre nos problèmes, mais cette histoire nous apprend qu'on est incapable de donner la bonne priorité à nos problèmes. Et on va en voir un bel exemple avec cet homme paralysé. Cet homme avait donc quatre amis qui étaient prêts à tout. Ils étaient prêts à tout pour aider leur ami. Ils se sont donc lancés dans une sorte de mission impossible. Une mission pour rencontrer Jésus dans l'espoir de permettre à leur ami de marcher. Et dans cette mission impossible, ils ne se laissent pas découragés par les obstacles. Ils ne se laissent pas décourager par la foule qui entoure Jésus. Ils font preuve d'une persévérance et d'une débrouillardise qui est assez exceptionnelle. Et ils le font parce qu'ils sont absolument convaincus que Jésus a la solution pour leur ami. Et donc, ils montent cet ami sur le toit de la maison. Ils commencent à découvrir une partie du toit. Ils créent une ouverture suffisamment grande pour pouvoir descendre un homme allongé sur un brancard. Et on peut imaginer l'agacement de la foule, les gens qui reçoivent des morceaux de plafond sur leur tête. On peut imaginer la colère du propriétaire de la maison, qui a dû bien décompenser en voyant ça. Mais ces amis-là sont déterminés. Ils sont déterminés à aider leur ami paralysé. Et ils y arrivent, mission accomplie. Leur ami est descendu et il est posé aux pieds de Jésus. Et à ce moment-là, peut-être pour la première fois de sa vie, cet homme-là, il est allongé exactement à l'endroit où il aurait voulu être allongé. Il est allongé au pied du Seigneur, au pied du Maître. Il est allongé à côté de celui qui a le pouvoir de le guérir. Et il est convaincu de ça. Et dans ce texte, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais cet homme paralytique, il est étrangement silencieux. Il ne parle jamais. Alors on ne sait pas si c'est parce qu'il n'a rien dit ou si c'est simplement que le texte ne nous le rapporte pas. Mais il est au centre de toute l'attention, il est au centre de toute l'action qui se passe ce jour-là. Mais on ne sait pas ce qu'il dit. Mais je pense qu'en fait, il n'avait pas besoin de parler, cet homme-là. Il n'avait pas besoin de parler parce que Jésus pouvait entendre son cœur tout aussi bien que ses paroles. Tout ce que cet homme pensait, tout ce que cet homme ressentait, Jésus en avait déjà connaissance. Il n'avait pas besoin de l'exprimer. Et le texte ne nous dit pas non plus ce qu'il a pensé, on ne le sait pas ça. Mais je pense qu'on peut essayer de se l'imaginer. Dans la Bible, dans 1 Jean, au chapitre 1 et le verset 9, la Bible nous dit « Si nous reconnaissons nos péchés, Jésus est fidèle et juste pour les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Si nous reconnaissons nos péchés, Jésus est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de tout péché. » Cet homme, il était venu à Jésus dans l'espérance d'avoir une guérison physique. Mais je pense qu'à cet instant-là, quand il était allongé aux pieds de Jésus, il a compris qu'il avait besoin avant tout d'autre chose, qu'il avait besoin avant tout d'une guérison spirituelle. Il s'est peut-être souvenu de la bonne nouvelle qu'il avait entendue ou que ses amis lui avaient rapportée. Il a peut-être été convaincu simplement en étant à côté et présent aux côtés du Fils de Dieu, à côté de celui qui n'avait jamais connu le péché. Et donc à ce moment-là, sa priorité numéro 1, qui était d'être guéri, soudainement, elle devient sa priorité numéro 2. Sa priorité numéro 1, c'est maintenant de confesser ses péchés et obtenir le pardon de ses péchés. Et donc il reste là, allongé aux côtés de Jésus. Et dans son cœur, il espère, il attend. Il n'attend pas seulement une guérison, il attend avant tout un pardon. Et Jésus, lui, il écoute et il entend son cœur. Et donc là, à ce moment-là, peut-être à la surprise de tous, sauf à la surprise du paralytique, Jésus prononce ces mots au verset 5. Il lui dit « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés ». La foule, les quatre amis, eux, ils attendaient un « Lève-toi et marche ». C'était ça que les gens attendaient. Mais Jésus dit « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés ». Jésus accorde à cet homme le pardon de ses péchés parce qu'il sait ce qu'il se passe dans le cœur de cet homme. Il sait qu'il a été convaincu de son péché. Et il sait que la nouvelle priorité de cet homme-là, ce n'est pas le miracle de la guérison, mais c'est le miracle du pardon de ses péchés. Et heureusement pour cet homme, et heureusement pour nous ce matin, les priorités de Jésus ne sont pas toujours nos priorités. Jésus nous dit, tu penses que le problème numéro un dans ta vie, c'est ton travail, c'est ta famille, c'est ton succès, c'est ton mariage, mais moi je te dis, le premier problème dans ta vie, c'est de te soucier du pardon de tes péchés. Et c'est ça que ce texte nous apprend ce matin. Et Jésus, il a cette capacité assez unique que lui seul a. Il nous oblige à réévaluer nos priorités. Et on le voit sans cesse dans la vie de Jésus, on le voit au travers de tous les évangiles. Quand il appelle ses disciples à le suivre, ses disciples abandonnent tout, famille, amis, travail pour suivre Jésus. On le voit avec Pierre, l'apôtre Pierre, on le voit avec Matthieu, Lévi, on le voit avec Zachée, l'apôtre Paul, toutes ces personnes qui ont complètement réévalué leurs priorités quand ils ont rencontré Jésus. Jésus ne peut pas nous laisser indifférents. Quand on le rencontre, on reconsidère nos priorités. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec cet homme paralytique. Et cet homme-là, il aurait pu protester, il aurait pu, à l'instant où Jésus a prononcé ces mots, il aurait pu dire « Mais ce n'est pas pour ça que je suis venu, ce n'est pas ce que je voulais. Tu te trompes, Jésus, tu vois bien que mon problème, ce n'est pas celui-là. » Mais il dit rien. Et il demande rien de plus. Il dit rien parce qu'il sait qu'il a déjà reçu l'essentiel. Il sait qu'il a déjà reçu le plus important. Alors pourquoi est-ce que Jésus a cette capacité unique et pourquoi est-ce qu'il arrive à nous forcer, nous obliger à reconsidérer nos priorités dans nos vies? Et dans ce texte, je crois qu'on peut voir trois caractéristiques de la personne de Jésus, de sa mission, qui peuvent nous expliquer pourquoi on ne peut pas rester indifférent face à Jésus. Trois choses qui expliquent que lorsqu'on est face à lui, on reconsidère nos priorités. La première de ces choses, c'est sa compassion. Cette semaine, on était en famille, en visite à Londres. Et donc forcément, on est passé devant le palais de Buckingham. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le palais de Buckingham, c'est la modeste demeure de Sa Majesté la Reine d'Angleterre. Et donc on est passé devant ce bâtiment qui est immense, qui est magnifique, un grand palais entouré par une grande clôture et plein de gardes tout devant, c'est assez impressionnant. Et devant un des portails de ce palais, il y avait un policier qui montait la garde et qui était dans une conversation assez animée avec une touriste. Et ce policier avait l'air assez agacé. Et en passant devant eux, j'ai pu attraper juste un tout petit bout de leur conversation et c'était le policier qui parlait et qui disait à cette dame « Non madame, je suis désolé, ce n'est simplement pas possible, ça ne sert à rien d'insister, je ne peux pas appeler la reine, elle ne viendra pas vous voir. » Les choses ne marchent pas comme ça. Et cette dame était très déçue, je pense. Et c'est comme ça pour beaucoup de gens, beaucoup de célébrités, beaucoup de politiciens, de gens d'influence. Ce sont des gens qui peuvent rassembler des foules, mais qui ont rarement le temps de consacrer et de s'intéresser individuellement à des inconnus. Et tout au long de son ministère, on voit que Jésus, il est dans cette position de rassembler les foules. Il attire à lui les gens, mais on voit aussi qu'il arrive toujours à prendre le temps de parler à des individus. Il arrive toujours à engager une conversation très personnelle avec une personne, même si c'est dans le contexte d'une foule. Et dans ce chapitre 2 de Marc, on le voit à nouveau, et c'est ce qui se passe, Jésus se laisse interrompre par le paralytique. Il prend le temps d'arrêter son enseignement. Il prend le temps de s'intéresser à une personne parmi les dizaines ou les centaines qui étaient présentes. Et ça, c'est quelque chose qui est caractéristique de Jésus et qu'on voit au travers de son ministère. Jésus accorde à chaque personne qui vient à lui une valeur et une importance toute particulière. Et ça, ça laisse personne indifférent, cette compassion-là. Qu'on vienne à lui debout sur nos deux pieds, qu'on vienne à lui dans un brancard, qu'on vienne à lui avec toute la foi et toute la persévérance de cet homme paralysé, ou qu'on vienne à lui avec juste une toute petite foi, Jésus nous accueille dans tous les cas à bras ouverts. Chaque personne a une importance à ses yeux. La deuxième chose qui caractérise Jésus dans ces textes, c'est son discernement, ou plus particulièrement, sa connaissance intime de nos cœurs et de nos pensées. Le texte nous dit qu'il y avait là, ce jour-là, des spécialistes de la loi, ou dans d'autres traductions, des pharisiens. Et le verset 8 nous parle de ces gens-là. Le verset 8 nous dit « Jésus sut aussitôt dans son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes, en parlant des pharisiens, et il leur dit « Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs ?» Jésus connaît nos cœurs, Jésus sait ce que nous pensons. Les pharisiens étaient des gens très érudits, ils appliquaient à la lettre la loi de Dieu. Mais dans cette démarche d'appliquer à la lettre de la loi de Dieu, ils avaient oublié l'esprit de cette loi. Ils utilisaient la loi de Dieu pour se distinguer, pour se séparer, pour se donner de l'importance. Et malgré toute leur connaissance de la parole de Dieu, ces gens-là n'avaient pas identifié Jésus comme étant le Fils de Dieu, comme étant celui qui avait été annoncé par les prophètes et par l'Ancien Testament. Et ce verset 8 nous dit que Jésus connaissait parfaitement leur cœur et leurs pensées. Il connaissait leur incrédulité, il connaissait leur hypocrisie. Il connaissait les critiques qu'ils murmuraient en silence. Et malgré toutes ces mauvaises dispositions de cœur, Jésus avait toujours cette compassion envers eux. Il avait envie de leur tendre la main, il avait envie de leur prouver qu'il était le Fils de Dieu et que sa mission était juste et vraie. Jésus connaissait aussi parfaitement le cœur du paralytique, on l'a dit tout à l'heure. Il savait que sa démarche était une démarche de foi et il avait vu et identifié en lui. Et c'est valable pour nous aussi ce matin, Jésus connaît nos cœurs. Le psaume 139, les versets 2 à 4, c'est trois très beaux versets qui nous disent « Éternel, tu discernes de loin ma pensée, tu sais quand je marche et quand je me couche, et toutes mes voix te sont familières. La parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà éternel, tu la connais entièrement. » Jésus nous connaît de fond en comble. Et ce matin, quel que soit le fardeau qui peut être sur nos cœurs, ce texte nous apprend que nous devons avancer vers Jésus, que nous devons avancer avec l'insistance et la détermination des quatre amis qui ont apporté leur ami paralytique. Et peut-être que nos raisons, nos priorités sont toutes mélangées, peut-être qu'on apporte à Jésus un problème qui est important à nos yeux, mais qui n'est pas important à ses yeux. Mais peu importe, Jésus nous invite à avancer vers lui. La troisième chose qui caractérise Jésus, c'est son pouvoir de pardonner. Il y a deux choses que seul Dieu peut faire. La première, seul Dieu peut guérir sur le champ et immédiatement une personne paralysée. C'était vrai il y a 2000 ans, quand la médecine moderne n'existait pas, mais c'est toujours vrai aujourd'hui, malgré tous les progrès qu'on a pu faire dans ce domaine. Jésus lui a dit « Lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi ». Et le texte nous dit « Aussitôt, sur le champ, à l'instant même, il se leva ». Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que seul Dieu peut faire, seul Dieu a la capacité de pardonner nos péchés. Dieu a le pouvoir de pardonner nos péchés parce que le péché est une violation de la loi de Dieu. Donc seul Dieu est habilité à nous offrir ce pardon. Les pharisiens avaient raison de penser en eux que seul Dieu peut pardonner les péchés. Leur théologie était juste sur ce point-là. Mais dans leur hypocrisie religieuse, leur foi était très mal placée. Ils n'ont pas identifié Jésus comme étant celui qui avait l'autorité de Dieu sur terre pour pardonner les péchés. Et face à cette incrédulité des pharisiens, Jésus va mettre sur pied une preuve qui serait incontestable pour une personne de bonne foi. Dans la pensée juive traditionnelle à cette époque, et particulièrement dans la pensée stricte et déformée des pharisiens, une personne malade était avant tout une personne contre qui Dieu était en colère. La Bible et Jésus n'ont jamais enseigné ça. Mais dans l'esprit des pharisiens, ces deux choses étaient très très liées. La maladie de l'homme paralysé était pour eux une marque de la mauvaise santé de sa relation avec Dieu. Et c'était pour eux deux domaines qui étaient exclusivement du ressort de Dieu. Seul Dieu avait le pouvoir de guérir, seul Dieu avait le pouvoir de pardonner le péché. Alors Jésus leur propose le défi suivant. Il leur dit, qu'est-ce qui est le plus facile ? De dire au paralysé, tes péchés sont pardonnés, ou lève-toi, prends ton brancard et marche. Le défi est lancé. En d'autres termes, Jésus leur dit, si je peux faire cette chose qui est très visible, alors vous devez croire que je peux faire cette autre chose qui est beaucoup moins visible. Si je peux guérir les jambes de cet homme, c'est que j'ai l'autorité et la puissance de Dieu pour le faire. Et donc, logiquement, c'est que j'ai aussi l'autorité et la puissance de Dieu pour pardonner le péché. Et donc, c'est ce qu'il va faire. Aussitôt, l'homme paralytique se leva. CQFD. Et là, on arrive au cœur de la mission de Jésus. On a vu que par sa compassion, il nous montre qu'il est ouvert à accueillir chacun de nous. On a vu que par son discernement, aucun cœur, aucune pensée, aucun péché ne lui est inaccessible. Et finalement, à cet instant-là, on voit que par sa puissance, par la guérison du paralytique, il prouve qu'il a tout pouvoir pour pardonner nos péchés. Et ce qui est intéressant dans ce récit, c'est qu'on a trois groupes de personnes et trois réactions très différentes face à Jésus. Et trois réactions dans lesquelles on peut puiser des leçons pour nous aujourd'hui. Le premier groupe et la première réaction, c'est la réaction de la foule. On ne sait pas grand-chose à propos de la foule, ils étaient nombreux par définition, et ils avaient choisi d'écouter l'enseignement de Jésus. Ils avaient peut-être aussi espéré voir un miracle ou deux. Et la fin de ce texte qu'on a lu ensemble nous révèle une partie de leur réaction face à ce qui s'est passé ce jour-là. Le texte nous dit, aussitôt quand l'homme paralytique se leva, devant tout le monde était très étonné et célébrait la gloire de Dieu en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil ». La foule semble reconnaître la puissance de Jésus. Ils rendaient gloire à Dieu. Ils avaient compris d'où venait Jésus. Mais leur réaction semble se focaliser exclusivement sur le miracle visible, sur le miracle de la guérison. Ils disent « Nous n'avons jamais rien vu de pareil ». Ils parlent de la guérison. Et pourtant, ce jour-là, Jésus leur avait montré clairement que le plus important, c'était pas le miracle visible de la guérison, mais c'était le miracle invisible du pardon des péchés. Le miracle visible de la guérison, c'était uniquement une preuve, uniquement un pointeur pour montrer que Jésus avait le pouvoir de pardonner les péchés. Jésus leur avait enseigné la bonne nouvelle, Jésus leur avait enseigné le besoin de repentance. Et il leur a montré que la priorité devait être avant tout la guérison spirituelle. Et donc ils auraient dû être challengés là-dedans, ils auraient dû être challengés dans leur vie spirituelle, ils auraient dû être convaincus de leur péché et en recherche du pardon offert par Jésus. Et donc on peut se poser cette question, combien de gens dans cette foule avaient compris cela ? Le texte ne le dit pas, mais on n'a aucun indice qui nous laisserait penser qu'il y avait une part importante de cette foule qui avait été convaincue de leur péché. Combien de gens étaient présents ce jour-là uniquement pour voir le miracle de la guérison, pour voir le spectacle de la guérison ? Combien de gens se sont réellement rapprochés de Jésus ce jour-là ? Le second groupe, c'est les pharisiens. On en a déjà bien parlé. Et si on peut considérer que les gens dans la foule étaient immobiles, qu'ils étaient dans une sorte de passivité face à Jésus, on peut considérer que les pharisiens, eux, ils rebroussaient chemin. Ils fuyaient face à Jésus. Ils fuyaient l'offre de pardon que leur présentait Jésus. Jésus représentait pour eux une menace. Une menace pour leur supériorité religieuse. Qu'est-ce qu'ils pouvaient bien faire de cette piété dont ils étaient si fiers si Jésus pardonne les péchés au moindre des pécheurs ? Plus tard dans son ministère, Jésus aura cette parole pour ces gens-là. Il leur dira dans Luc 5, verset 32, « Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Les pharisiens, eux, se sentaient justes. Ils avaient foi en leur capacité à respecter la loi de Dieu. Ils avaient foi en leur piété personnelle. Et ils ne pensaient pas donc avoir besoin du pardon de Jésus. Le troisième groupe et la troisième réaction, c'est le paralytique. Et si la foule, elle, était immobile et indécise, si les pharisiens, eux, rebroussaient chemin, on peut dire que le paralytique et ses amis, eux, ils fonçaient vers l'avant. Ils avançaient à tout prix vers Jésus. Et c'est cette démarche de foi que Jésus a identifiée en eux. Et en lisant ce texte, la question, elle nous est posée aujourd'hui. Où est-ce qu'on en est ? Face à Jésus, chacun de nous, personnellement, où est-ce qu'on en est ? Est-ce qu'on est dans la foule, passif, indécis, refusant de laisser nos priorités être challengées par Jésus ? Est-ce qu'on adopte l'attitude des pharisiens en rejetant Christ, en rejetant son offre de salut, en pensant qu'on n'en a tout simplement pas besoin ? Ou est-ce qu'on ressemble au contraire au paralytique qui a continuellement avancé vers Jésus, malgré les obstacles, dans l'espoir de le rencontrer ? Alors évidemment, Jésus nous appelle à le suivre et il nous appelle à avoir cette démarche, celle du paralytique. Et voici trois clés que je vous laisse et qu'on peut tirer de ces textes qui nous aident à mieux comprendre ce que Jésus nous appelle à faire. La première chose qu'il nous appelle à faire, c'est de faire du pardon de nos péchés notre priorité. Lorsqu'on est face à Jésus, on l'a dit, il remet en haut de notre liste de priorités le pardon de nos péchés. Plus rien ne compte quand on est face à lui. Cette question nous est posée et on doit y répondre. Le tout, pour nous, c'est de le vouloir et de le demander. Et si vous pensez ce matin que vos péchés sont trop graves, si vous pensez que vos péchés sont trop nombreux pour Jésus, regardez à cet homme paralysé. Sa maladie était trop grave pour tous les médecins de l'époque et encore pour tous les médecins d'aujourd'hui. Et pourtant, Jésus avait la compassion et le pouvoir pour le guérir. Et aujourd'hui, je peux vous l'assurer, Jésus a la compassion et le pouvoir de guérir vos péchés. La seconde chose, une fois qu'on a reçu le pardon de nos péchés, on est appelé à avoir l'assurance du pardon. Pour le paralytique, pour la foule ce jour-là, l'assurance du pardon était très visible. Si Jésus pouvait guérir miraculeusement, c'est donc qu'il pouvait aussi pardonner les péchés. Et aujourd'hui, nous, on hérite de ce témoignage-là. On est au bénéfice du témoignage de cet homme. Mais on a bien plus aussi. On a par le témoignage de centaines de témoins. On a par le témoignage de la vie et des œuvres des apôtres. On a par la fiabilité de l'Écriture, de la parole de Dieu, la ferme assurance que notre Seigneur Jésus est mort pour nous afin d'obtenir le pardon de nos péchés et qu'il est ressuscité au troisième jour. Et donc aujourd'hui, on peut lire sans l'ombre d'un doute des versets comme celui-ci dans Romains 8, verset 34. « Qui nous condamnera ? Jésus est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Et la troisième chose, c'est un appel à vivre la libération du poids du péché. On pourrait dire que ce jour-là, le choix du miracle était bien conduit. Ce choix était là pour illustrer une réalité spirituelle. Mais je pense que quand on parle de Jésus, il y a peu de choses qui sont laissées au hasard. Le miracle de cette guérison-là nous sert aussi de parabole. L'homme de cette histoire a été libéré de la paralysie physique. Mais le pardon de ses péchés l'a aussi libéré d'une paralysie spirituelle. Et cette histoire nous apprend que nous aussi, nous pouvons bénéficier de cette libération de notre paralysie spirituelle. La Bible nous enseigne qu'il n'y a plus aucune condamnation pour le chrétien pardonné. Le pardon de Jésus couvre nos péchés, tous nos péchés, passés, présents et futurs. Mais cette assurance du pardon éternel de nos péchés ne veut pas dire qu'on ne doit plus prier pour le pardon de nos péchés. Si devant Dieu, tous nos péchés sont pardonnés, la conscience de notre culpabilité de ce péché peut rester. Et cette culpabilité crée en nous un sentiment de séparation avec Dieu, ce qui implique qu'on a besoin de revenir sans cesse vers lui et chercher l'assurance de notre pardon. Un autre verset dans Romains 6, chapitre 6, verset 11, qui nous dit « De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. » On nous demandait tout à l'heure si on était bien vivant. On est vivant ici ce matin, mais le Seigneur Jésus nous demande si on est vivant spirituellement. Est-ce qu'on est sorti de cette paralysie spirituelle ? Dieu n'efface pas nos fautes pour nous laisser une page blanche qu'on est libre de remplir à nouveau avec nos péchés. On est appelé à quitter cet état de paralysie spirituelle. Jésus nous offre le pardon de nos péchés, mais il nous offre aussi une vie nouvelle, une vie différente, une vie libérée du péché. Et donc en conclusion, ces versets nous mettent face à la mission du serviteur et à son offre de pardon. Et la question nous est posée, quelle est notre réponse face à cette offre ? C'est dur de rester inactif face à cette proposition de Jésus. On est obligé au moins de la considérer, de se demander, est-ce que c'est pour moi ? Et si vous considérez cette offre de Jésus, je vous invite à garder en tête ces trois choses dont on a parlé. Jésus a fait preuve de compassion à notre égard. Jésus connaît parfaitement nos cœurs et nos pensées. Et Jésus a le pouvoir de pardonner nos péchés. À partir de là, la balle, elle est dans notre camp. C'est à nous de jouer. C'est à nous de nous positionner. Et si on le fait, si on prend cette démarche comme cet homme paralytique, un jour on entendra peut-être, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.